Première épître à Timothée, chapitre 6, à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.
La dernière fois, nous avons étudié le verset 3 en particulier. Je rappelle que les deux premiers versets nous ont montré que le christianisme n'est pas une force servant à changer l'ordre social dans le monde, mais que par contre nous pouvons entacher le témoignage de Dieu dans le monde en montrant de l'insoumission les uns envers les autres. Nous voyons ici, si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, c'est également de la manifestation de l'insoumission et, comme on dit plus loin, de l'orgueil. C'est contraire à la pureté de la doctrine qui a été reçu puis enseigné par les apôtres. Il désirait transmettre les paroles du Seigneur Jésus. Si quelqu'un enseigne autrement, c'est-à-dire s'il ajoute sa propre interprétation humaine à la parole de Dieu. Nous avons rappelé que la parole s'interprète par la parole seulement. Nous le voyons. Nous l'avons vu en 2 Timothée 1, verset 20. On peut le lire. 2 Pierre 1, verset 20. 2 Pierre 1, verset 1. Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, c'est-à-dire n'est d'une interprétation particulière, ou être pris isolément. Donc nous avons rappelé que la parole s'interprète par la parole seulement, et elle se reçoit par la foi. Nous avons vu aussi qu'il y avait des choses qui nécessitaient des explications particulières. Et nous le voyons par exemple, c'est les songes. Nous voyons Joseph en Genèse 41 qui interprète ou qui explique les songes à ses frères. Nous voyons aussi les paraboles en Marc 4, verset 34, où le Seigneur expliquait et interprétait lui-même les paraboles à ses disciples. Nous avons aussi les symboles, par exemple, dans l'Apocalypse, mais je n'ai pas retrouvé le passage que nous avions vu. Mais dans toutes ces choses-là, le verset de Pierre 1, verset 20, est là pour dire que la parole est suffisante pour trouver la vérité de Dieu sur chaque parole, sur chaque passage. Nous n'avons donc pas à enseigner autrement ou à ajouter une interprétation humaine, mais à recevoir par la foi. La doctrine qui est selon la piété, fin du verset 3, nous avions insisté sur le lien qu'il y a entre la doctrine, ou la vérité, et la piété. La vérité, lorsqu'elle est présentée dans sa pureté, par les dons en particulier dans le corps, cette vérité, elle amène les âmes à marcher ensemble et ensemble devant Dieu selon ses pensées.
Au verset 3, nous disons, si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles. Le verbe se ranger. Nous savons que l'apôtre Paul compare le chrétien, en 2 Timothée 2 en particulier, à un soldat. Verset 3, « Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Un peu plus loin, il est comparé aussi à un laboureur. Il est comparé aussi, verset 5, à un athlète. Et alors, nous savons que la parole de Dieu est très précise. Et là, il emploie ce verbe « et ne se range pas ». Et nous pourrions regarder juste deux versets dans la première des Chroniques à propos de l'armée de David. Chronique 12, versets 33 et verset 38. Il y a cette expression « gardant leur rang ». Verset 33, « De Zabulon, ce qui allait à l'armée, préparé pour le combat avec toutes les armes de guerre, 50 000 gardant leur rang. » Et au verset 38, il est dit « Tout cela, hommes de guerre, gardant leur rang en ordre de bataille. » Et dans 1 Timothée, nous voyons que les faux enseignants, ils ne se rangent pas. C'est-à-dire, ils ne gardent pas le rang, mais ou bien ils s'isolent, ou bien ils font preuve d'individualisme, mais ils enseignent autrement et ne se rangent pas. C'est-à-dire, ils n'entrent pas dans l'armée comme de vrais combattants. Ensuite, il nous est dit qu'ils ne se rangent pas à de saines paroles, savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut être intéressant de comprendre ce que sont les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous est pas dit ici que c'est sa parole ou de garder la parole de Christ, mais il est parlé des saines paroles. Et si nous lisons en particulier dans les évangiles à propos des paroles du Seigneur Jésus, ce qui nous est dit, nous avons sans doute quelques instructions à en tirer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 22, nous voyons, c'est le témoignage de personnes qui se tenaient près du Seigneur Jésus. Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Un des caractères des paroles du Seigneur Jésus, c'était des paroles de grâce. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur lui-même, il parle de ses paroles dans le chapitre 6 et au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Et nous voyons que le Seigneur met en opposition la chair chez l'homme, et les paroles qu'il dit. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Et un peu plus loin, nous avons le témoignage de Pierre au verset 68, tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc nous voyons que dans les évangiles, nous trouvons cette expression, les paroles de Jésus-Christ. Des paroles de grâce, des paroles qui donnent la vie éternelle. Et le Seigneur lui-même, il qualifie donc ces paroles, les paroles que moi je vous ai dit, que je vous ai dites, son esprit et son vie. Et nous voyons que, appliquées par le Saint-Esprit, eh bien, les paroles de Jésus-Christ, elles donnent la vie. Elles donnent la vie éternelle. Et nous pouvons nous poser la question, où peut-on trouver d'autres paroles que celles de Jésus-Christ? Où y a-t-il des paroles qui donnent la vie, qui donnent la vie éternelle? Eh bien, il n'y en a pas. Et nous voyons donc, dans ce qu'exprime Pierre, que les paroles de Christ avaient saisi le cœur de ses disciples, d'où cette expression, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. » Si nous tournons la page au chapitre 7, nous voyons que, encore une précision sur les paroles du Seigneur Jésus. Verset 16 du chapitre 7. Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. Et donc nous voyons que les paroles du Seigneur Jésus, ces paroles de grâce, ces paroles qui donnent la vie éternelle, qui donnent la vie, eh bien cette doctrine venait de Dieu lui-même. Et donc quand nous lisons dans 1 Timothée, ce quelqu'un qui ne se range pas à de saines paroles, à savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que sa doctrine ou son enseignement, eh bien, ne peut pas donner la vie. Ne se range pas à de saines paroles. Alors, l'adjectif saine, de saines paroles, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Le terme anglais peut être plus précis, eh bien, saint, ça veut dire qui donne la vie, qui guérit. Et nous savons, et donc ce n'est pas quelque chose de malsain, mais les paroles de Jésus-Christ, c'était des saines paroles, des paroles qui donnaient la vie. Et si nous souvenons de tous les miracles que nous pouvons lire dans les évangiles, nous voyons que le Seigneur Jésus, au moment des miracles qu'il opérait par sa parole, eh bien, il donnait la vie, il guérissait les malades. Et donc, nous voyons la différence entre enseigner autrement et quelqu'un, bien au contraire, qui donne, comme les apôtres, les saines paroles qu'ils avaient reçues de leur Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons exprimé dans la prière tout à l'heure, les paroles de celles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes soumis et obéissants aux paroles, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 4, nous voyons que les faux enseignants, eh bien, l'origine, eh bien, il est enflé d'orgueil. Et dans l'épître à Timothée, il nous est dit, dans le chapitre 3, il nous est parlé de celui qui est nouvellement converti, au verset 6, de ne pas tomber dans la faute du diable. Et un peu plus loin, au verset 7, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Et nous voyons que le diable, eh bien, il met des pièges sous nos pieds. Et un des pièges, eh bien, c'est de tomber dans la faute du diable, c'est-à-dire l'orgueil, la prétention. Et là, il nous est parlé d'un piège, donc dans 1 Timothée 3, verset 7, et un petit peu plus loin, dans 1 Timothée 6, au verset 9, il est dit, « Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Et on voit que le diable, eh bien, il est toujours à l'œuvre. À l'œuvre, d'abord, c'est pour obscurcir la vérité ou la renverser. Et donc, il tend des pièges. Et le mot grec pour piège, c'est filet. Et c'est un filet dont il est très difficile de sortir. Et donc, nous voyons que le diable est toujours à l'œuvre pour obscurcir, comme on vient de dire, la vérité. Et donc, il tente des pièges. Et un des pièges, bien sûr, c'est les faux enseignements. Et en rapport avec cela, nous voyons au verset 20, on ne l'a pas lu aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut faire la relation. Il est dit au Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes, et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Les discours vains et profanes. Et nous voyons que la responsabilité des frères qui enseignent en particulier, il nous est dit dans la seconde épître à Timothée au chapitre 2, verset 15, « Étudie-toi à te présenter, approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. » Alors nous voyons d'un côté l'enseignement des saines paroles, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont selon la piété, et de l'autre côté nous avons le faux enseignant, en particulier qui donne des discours vains et profanes, mais ces discours vains et profanes, eh bien, ils vont plus avant, verset 16 du second épître de Timothée au chapitre 2, verset 16, évite les discours vains et profanes, car qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. Et donc nous voyons que l'apôtre Paul, il fait le parallèle entre le bon enseignement approuvé par Dieu et le faux enseignement, eh bien, qui amène d'abord celui qui professe ce faux enseignement, mais qui va de plus en plus dans l'impiété, iront plus avant dans l'impiété. Alors c'est intéressant de voir la signification de profane et vain. C'est-à-dire un discours profane, c'est un discours qui vient de l'esprit humain. Et l'esprit humain, nous le savons, il est corrompu par le péché et il amène donc à l'impiété. Et les discours qui sont vains, d'abord profanes et ensuite vains, c'est-à-dire ce sont des discours qui sont vides, c'est-à-dire qui sont dénués de substance et ils ne nourrissent pas l'âme et bien au contraire, ils sont vides de substance, c'est-à-dire au fond, ils n'apportent rien à ceux qui les écoutent. Et donc, nous voyons qu'à la fin de la première épître à Timothée, avant d'aller vers la deuxième épître à Timothée, nous sommes mis en garde, d'un côté, le bon enseignement, qui est, selon les saintes paroles reçues, données par les apôtres qu'ils avaient reçues de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et de l'autre côté, les faux enseignants, eh bien, qui donnent des discours vains et profanes, qui viennent de l'esprit humain qui est corrompu et qui n'apporte rien à l'âme, avec des arguments qui sont dénués de toute substance, qui ne nourrissent pas.
Il est enflé d'orgueil, ne sachant rien. Nous avons dit que c'est la faute du diable. C'est frappant de voir au début de l'histoire de l'homme, dans Genèse 2, ce contraste qu'il y a entre les paroles venues de Dieu qui donnent la vie et les paroles du diable qui mènent à la mort. Et Dieu dit en Genèse 2, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Quelle est la réponse de Satan ? Quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? Et cette chose, au verset 3 du chapitre 3, au verset 4, vous ne mourrez pas certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Voilà la grande convoitise et l'erreur de Satan, c'est de vouloir être comme Dieu. Peut-être on peut dire être enflé d'orgueil, c'est-à-dire manifester cet orgueil, c'est vouloir être comme Dieu, de dire mon enseignement est au moins aussi bien que celui de Dieu. Et on est enflé d'orgueil, on tombe dans le piège du diable et on voit ensuite ne sachant rien, ne sachant rien. Quand on tombe dans ce piège-là, on ne sait plus rien. On ne sait plus rien du Seigneur, on ne sait plus rien de Dieu. On ne sait plus rien de ses voies et nous sommes entièrement adonnés à notre sens. Nous voyons que dans Genèse 3, la femme en l'occurrence n'a pas tout de suite dit non à cet enseignement et puis qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle vit que l'arbre était bon à manger, il était un plaisir pour les yeux, l'arbre était désirable. Et voilà que les manifestations ce que nous sommes en nous est manifesté à ce moment-là.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de voir où est-ce que dans la parole on voit que, en dehors de 1 Timothée 3, que l'orgueil, c'est la faute du diable. On pourrait lire en Ésaïe 14, au verset 12. C'est là qu'on a l'explication que on vient nous donner que c'est le fait de vouloir être comme Dieu. Ésaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, petite note Lucifer, fils de l'aurore. Verset 13. Toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, des nues, je serai semblable au Très-Haut. Remarquons ici, c'est premièrement dans ton cœur. Dans notre passage, c'est il est enflé d'orgueil. Pour ainsi dire, c'est un stade un peu plus loin. Pierre Edgar a parlé de la manifestation de cela. Peut-être juste les enfants peuvent même comprendre cela. Si on court et qu'on se tord une cheville, elle va enfler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va se voir extérieurement. Et on peut dire que l'origine a commencé dans le cœur, on n'a pas jugé cela, et puis finalement, ça s'est manifesté. Ici, il est enflé d'orgueil. Il n'y a pas de mot superflu dans la parole. Et quel contraste quand on pense à ce qui nous est dit du Seigneur Jésus lui-même. On en a dit quelque chose ce matin en Philippiens 2. Il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti. Ici, il nous est parlé d'enseigner autrement. Quand on pense premier chapitre de l'évangile de Jean, où il est dit « la parole devint chair ». C'est complètement opposé. Ici, il est enflé d'orgueil. Pierre Edgar l'a déjà dit, je le répète, c'est vouloir se mettre au même niveau que Dieu pour expliquer la parole. C'est ce qu'a fait le diable. Et le Seigneur, il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu.
Pour compléter ce qui vient d'être dit, nous pourrions lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Au verset 4, nous voyons que l'apôtre parle de quelqu'un qui prêcherait un autre Jésus que les apôtres avaient prêché. Et donc, recevoir un esprit différent et un évangile différent. Et donc, ces faux docteurs, au verset 13 du même chapitre 11, eh bien, ils sont appelés des faux apôtres et des ouvriers trompeurs qui se transforment même en apôtres de Christ. Et il est ajouté, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera leurs œuvres. Alors nous voyons que les faux enseignants ici sont appelés des ouvriers trompeurs ou des faux apôtres. Et nous voyons que l'apôtre, il démasque celui qui est leur maître, c'est-à-dire le diable. Et nous voyons aussi que le but, c'est de corrompre les pensées des croyants et les détourner de la simplicité, de la vérité quant au Christ, comme cela nous est dit au verset 3 de ce même chapitre. Et donc nous voyons au verset 20, toujours de ce même chapitre, que l'effet est terrible. Et il est dit, car si quelqu'un vous a servi, c'est-à-dire au fond, non seulement ce qu'enseignent les faux docteurs, il n'y a pas de substance, ça ne nourrit pas, Mais en plus, l'apôtre, il dit, si quelqu'un vous asservit, eh bien, ça entraîne un asservissement. Et si quelqu'un s'élève, eh bien, en suivant les faux docteurs, le danger, c'est de s'élever. C'est-à-dire prendre fait et cause pour les faux docteurs et s'élever dans nos cœurs avec le faux docteur. Donc le danger est bien réel même aujourd'hui. Alors peut-être pour les plus jeunes quant à l'étude de la parole de Dieu, on pourrait dire qu'il y a deux grands dangers. Le premier danger, c'est la curiosité intellectuelle. Dieu ne nous a pas donné la vérité, la parole de Dieu, pour satisfaire notre curiosité. Mais Dieu désire que la vérité nous amène à la connaissance personnelle de Jésus-Christ et que Christ soit le centre de notre vie. Et nous devons bien comprendre que le premier danger de la lecture de la parole de Dieu, c'est de la lire par une simple curiosité humaine, satisfaire peut-être nos besoins intellectuels. Le deuxième danger, eh bien c'est ce qu'on appelle l'étude analytique de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour que nous l'analysions, que nous pour la débattre, par exemple, mais la parole de Dieu nous a été donnée pour transformer notre vie intérieurement, notre marche, notre conduite, et afin que nous soyons des chrétiens vivants selon la vérité. Et le Seigneur a dit, si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. Donc les deux grands dangers, quand on est jeune et même à tout âge, eh bien, la lecture de la parole de Dieu n'est pas pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, et le danger est réel aussi de faire une simple étude analytique de la parole de Dieu, comme nous ferions de n'importe quel livre dans les bibliothèques qu'il y a dans ce monde. Mais le but de la vérité de Dieu qui nous a été donné, c'est pour transformer notre vie intérieurement d'abord et avoir une marche et une conduite devant Dieu qui lui plaise.
Un passage qui souligne autrement ce que Michel vient de dire dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Le contexte de 1 Corinthiens est connu, donc on ne va pas y revenir, mais au verset 1er, « Car nous avons tous de la connaissance, milieu du verset, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Ici, l'apôtre souligne justement ce fait que, comme on vient de le rappeler, aller chercher juste ce qui nous plaît ou ce qui pourrait nous avantager ou justifier nos pensées dans la parole, eh bien, peut mener très très loin. C'était en quelque sorte aussi ce danger qui guettait les Corinthiens, qui connaissaient beaucoup, qui avaient beaucoup de dons, malheureusement, ne l'ayant pas mis en lien avec cette doctrine selon la piété. Là, on peut revenir à ce passage de 1 Timothée 6. Eh bien, ils en sont arrivés à des pratiques qui étaient plus que condamnables et condamnées. Et c'est maintenant une question que je pose. Est-ce que, justement, quand on parle à la fin de ce verset 3 et à la doctrine qui est selon la piété, est-ce que là, on englobe tout ce mystère de la piété qui nous est donné au chapitre 3, verset 16, c'est-à-dire qu'en réalité, tout est de Dieu et tout revient à Dieu dans ce que le croyant peut avoir comme connaissance ou comme, on va dire, oui, connaissance du Sauveur. On a un peu lu ici. Et dans le contexte aussi de cette première épître où on parle de l'ordre dans la maison de Dieu, de la piété aussi, est-ce que justement c'est comme une pierre de touche que cette doctrine selon la piété, pour que l'on puisse voir que quelqu'un finalement s'écarte et s'enorgueillit ou commence, comme aussi Mika l'a dit, à avoir des dispositions intérieures. Et je le dis un peu en lien aussi avec l'épître de Jude, dans laquelle il est plusieurs fois mentionné justement ce mot impiété, impiement, impie, dans laquelle le frère Jude parle justement de beaucoup de personnes qui avaient été en contact avec la vérité, mais qui finalement eh bien, s'en servaient plutôt pour eux-mêmes. Donc c'est un peu ça la question, est-ce que cette doctrine qui est selon la piété, est-ce un peu, comme qui dirait, ce qui nous permet de voir qu'on s'écarte ou qu'on reste dans la vérité, éventuellement, ou c'est autre chose. Merci.
Pour définir ce qu'est la piété, c'est notre relation intime avec Dieu, notre Père, et avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une relation qui est vivante, qui devrait être vivante. Dans le cas contraire, de Timothée, chapitre 3, nous parle de la forme de la piété. Mais Dieu désire que notre lien avec lui et avec le Seigneur Jésus-Christ soit un lien vivant. Et pour ainsi dire, la piété se nourrit de la parole de Dieu. Elle se nourrit des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Elle se nourrit, la piété, de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et donc le mystère de la piété, comme Arnaud, tu as dit au verset 16 du chapitre 3, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, c'est-à-dire que plus nous considérons dans les Écritures le Seigneur Jésus, dans les Évangiles, et tout ce qui nous est dit aussi dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, eh bien la piété, elle se nourrit de toutes ces choses, et cette piété, se nourrissant de toutes ces choses, eh bien notre intimité avec Dieu et avec son Fils est de plus en plus étroite. C'est-à-dire, au fond, toutes les réalités de la parole de Dieu, tout ce qui nous est dit sur notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus vivantes dans nos âmes. Voilà une définition de la piété, c'est une relation intime avec notre Dieu, avec le Seigneur, mais cette relation, elle doit se nourrir pour se développer, pour grandir, et elle se nourrit de la parole de Dieu, des paroles de foi, des paroles de la bonne doctrine, et elle se nourrit en particulier de tout ce qui est dit de la personne du Seigneur Jésus, que ce soit dans sa marche parfaite pendant sa vie, la croix, bien sûr, de Golgotha, sa résurrection, sa présence maintenant dans le ciel, ses fonctions aussi dans le ciel, notre souverain sacrificateur, notre intercesseur, notre avocat auprès du Père. Et donc la foi se nourrit, et la piété se nourrit de toutes ces choses, et ces choses, plus nous nous en occupons, plus elles deviennent vivantes dans nos âmes, et nous nous approchons donc de plus en plus de notre Dieu et de notre Père, et nous jouissons d'une véritable communion avec ces personnes divines.
La foi se nourrit des paroles de Dieu et elle écoute. Lorsque nous lisons la parole, nous écoutons la parole de Dieu. Peut-être un passage qui nous illustre bien les choses que nous avons dans nos versets, c'est dans ce que nous trouvons dans Matthieu 16. Lorsque nous trouvons le Seigneur, au pire rejeté, au mieux incompris, se retourner vers ses disciples. Nous voyons ceux qui raisonnent, nous voyons ceux qui débattent, et nous voyons ceux qui écoutent ou qui ont écouté. Au verset 7, ils raisonnaient en eux-mêmes, verset 6, « Voyez, soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens, justement ceux qui élèvent. » Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Et le Seigneur doit dire, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? N'entendez-vous pas encore ?» Et au verset 9, « N'entendez-vous pas encore? Et ne vous souvient-il pas des 5 pains et des 5 000 hommes, et combien de paniers vous en avez recueillis ?» Au verset 13. Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils dirent, les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Nous voyons ici que les personnes qui venaient assister au Seigneur Jésus essayaient de le comparer avec ce qu'ils connaissaient et raisonnaient entre eux pour savoir s'ils étaient plutôt Jean le baptiseur ou Élie ou Jérémie. Et ils ne connaissaient rien. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondant dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant lui dit, tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Pierre a écouté la parole, a écouté la voix de son maître et a reconnu que c'était le Fils de Dieu. En passant, ce n'est pas juste pour nous-mêmes que nous cherchons à écouter la voix du Seigneur et à le connaître, combien cela plaît à son cœur. Dans l'obscurité du monde, d'avoir l'un ou l'autre qui partage ses pensées, qui a communion avec lui et avec le Père à son sujet. Combien c'est la chose la plus grande et la plus élevée que nous pouvons faire sur la terre, de partager avec lui ses conseils.
Pour avancer un petit peu, nous voyons au verset 4 et 5 les conséquences du fait d'écouter les faux enseignants. Des disputes de mots, des envies c'est les jalousies, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité qui estime que la piété est une source de gain. Des hommes corrompus dans leur entendement, cela veut dire que ces hommes ont des motifs cachés et ces motifs cachés, eh bien, ils corrompent leur entendement, leur pensée, qui les prive de la vérité, ça va très loin, et qui estime que la piété est une source de gain. Donc on voit que l'amour de l'argent, qui est quelque chose qui est développé par l'apôtre après, eh bien, c'est une source cachée et qui entraîne donc chez les faux docteurs, en particulier les faux enseignants, du désordre dans l'assemblée. Parce que la première épître à Timothée nous parle du bon ordre de la maison de Dieu. Et nous voyons que les avertissements de Paul à l'égard de Timothée, dans 1 Timothée 6, eh bien, il nous parle des faux docteurs, il nous en est parlé aussi avant, à plusieurs reprises, mais ici nous voyons que les faux docteurs, avec des motifs cachés, eh bien, cela entraîne du désordre dans l'assemblée de Dieu. Et l'apôtre donc fait le parallèle entre la piété avec le contentement, la satisfaction, et de l'autre côté, c'est l'impiété, le désir de gagner de l'argent, et qui entraîne au fond du désordre dans l'assemblée. Et dans le verset 9, nous avons ce verbe, ceux qui veulent devenir riches. C'est ceux qui veulent. C'est quelque chose, cette volonté insatiable de devenir riche. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu de personnes qui sont tombées dans ce piège. Nous avons dans Josué à Caen, par exemple, nous avons Judas dans les évangiles. Nous avons Balaam aussi dans l'Ancien Testament. Nous voyons donc des exemples de personnes qui ont été entraînées dans le mal à cause de ce désir de devenir riche. Et ils sont tombés dans l'impiété.
Ces expressions du verset 4, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, c'est donc l'ignorance, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie. La maladie, c'est l'opposé des saines paroles. On a dit les saines paroles, ça donne la vie, ça guérit. La maladie, c'est tout l'inverse. Ça amène du mal. Maladie des questions et des disputes de mots. On pourrait se demander pourquoi c'est problématique, les disputes de mots. Ce qui est bien, c'est que la parole répond à cela. À même page, 2 Timothée 2, verset 14, juste avant les versets qu'on a lus. Remet ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur, qu'on n'ait pas de disputes de mots, ce qui est sans aucun profit et pour la subversion des auditeurs. Premier point, aucun profit, ça ne sert à rien. Deuxième point, pour la subversion des auditeurs. C'est peut-être un mot qu'on utilise plus trop de nos jours. J'ai bien compris, la subversion des auditeurs, c'est le renversement de l'ordre moral. C'est-à-dire que, finalement, prenons un exemple, deux frères vont discuter sur deux mots de la parole, puis chacun va avoir une opinion. Et puis, l'auditeur, finalement, il va se dire, c'est une opinion, je choisis mon côté. Et donc, la vérité, finalement, elle n'a plus d'autorité, la parole de Dieu n'a plus d'autorité. je voudrais offenser personne parce que c'est des choses qui peuvent tous nous toucher sur différents sujets. Mais je pose cette question, est-ce qu'on n'est pas dans des disputes de mots quand notamment par rapport à 1 Timothée 2, on discute sur le mot « enseigner » pour nos sœurs et qu'on essaye de le contourner en parlant de « partage ». Et d'où naît l'envie? Il y a donc eu une origine, puis maintenant d'où naît l'envie? Quelle est la pire chose sur cette terre qui a eu lieu à la suite de l'envie? On trouve la réponse en Matthieu 27. Ou la jalousie, on a dit. Matthieu 27, verset 18. Car Pilate savait qu'il l'avait livré par envie. C'est solennel. La première chose, enflé d'orgueil, on a dit, c'est l'opposé contraire de la parole qui est devenue chair. Et ça amène quoi? Ça fait naître l'envie. Et l'envie a conduit à ce qu'on rejette le Fils de Dieu, à ce qu'on le livre aux nations et à ce qu'il soit crucifié.
Thank you. 35, la première strophe.